Fyodor Mikhailovich Dostoïevski, Prohartchine. Le plus sombre, le plus humble coin du logement d'Oustinia Féodorovna, Semyon Ivanovitch Prohartchine l'occupait. C'était un homme déjà mûr, très sage, et qui ne buvait pas. Petit employé, il n'avait d'appointement que juste ce que comportaient ses capacités, et Oustinia Féodorovna estimait ne pouvoir décemment lui demander plus de 5 roubles par mois. D'aucuns ne voyaient dans cette longanimité qu'une conséquence de certains calculs tendancieux. En tout cas, était-ce pour faire la nique aux médisants ? Elle en était venue à traiter M. Prohartchine comme un favori, mais en tout bien tout honneur. Notons qu'Oustinia Féodorovna, femme des plus respectables et de fort corpulence, et qui faisait preuve d'un penchant très vif pour les viandes et le café en même temps que d'un dégoût marqué pour les jours maigres, avait encore d'autres locataires. Mais ceux-ci payaient 2 fois plus cher que Semyon Ivanovitch. Ces êtres turbulents, ces mauvais blagueurs, s'étaient ruinés dans l'esprit de la logeuse en se moquant d'elle et de sa situation de veuve sans défense. Sans leur ponctualité à payer leur loyer, elle n'eût jamais consenti, je ne dis pas à les héberger, mais seulement à les voir. Semyon Ivanovitch avait été promu favori d'Oustinia Féodorovna du jour qu'on avait conduit au cimetière de Volkovo certains cadavres qui de son vivant avaient trop aimé les liqueurs. Retraité du service civil, pour ne pas dire chassé, ce personnage, en dépit de son œil crevé et de sa jambe manquante, perdu à ce qu'il disait dans un accident de bravoure, ce personnage n'en avait pas moins su gagner toutes les faveurs dont Oustinia Féodorovna pouvait être la dispensatrice, et sans doute eût-il encore longtemps vécu en pique-assiette s'il ne fut subitement mort en ivrogne fiéfé à la suite de libations immodérées. Cela se passait à Pieski, alors qu'Oustinia Féodorovna n'avait que 3 locataires sur lesquels, après transfert et extension de l'établissement, il ne lui resta plus que le seul M. Prohartchine. Faut-il en incriminer les incontestables défauts de M. Prohartchine ou ceux de ses nouveaux commensaux? Mais dès le début, les relations ne semblaient pas des plus excellentes. Il faut qu'on sache que les nouveaux pensionnaires d'Oustinia Féodorovna vivaient en vrais frères. Plusieurs étaient employés dans les mêmes bureaux. Ils perdaient tour à tour leur paye en jouant entre eux chaque premier du mois. Tous aimaient à jouir en compagnie des joies de l'existence. Ils se plaisaient aussi parfois à deviser de choses élevées, bien que tout ne se passât pas alors sans escarmouche. Mais l'accord se rétablissait bientôt, les préjugés étant bannis de cette république. Les plus remarquables de ces messieurs étaient Mark Ivanovitch, homme de sens et versé dans les lettres, Oplievaniev, locataire, et Prepolovienko, plein de bravoure et de simplicité. Il y avait aussi Zenobi Prokofitch, dont l'unique objectif était d'accéder au grand monde, et le greffier Okeanov, qui avait failli un instant remporter la palme des faveurs d'Oustinia Féodorovna. Il y avait encore un autre greffier, Soubdin, et le bourgeois Kantaryov, et d'autres. Mais Semyon Ivanovitch, à ce qu'il semblait, n'avait point d'amis parmi eux. Personne, certes, ne lui voulait de mal, d'autant que dès les premiers jours, chacun lui avait rendu justice, l'estimant bon et doux, sans grande habitude du monde, mais de rapport très sûr. Sans doute, il avait ses défauts, mais on pensait que le seul dont il put éventuellement avoir à souffrir était son manque complet d'imagination. Outre ce défaut, M. Prohartchine n'avait pas un extérieur de nature à impressionner favorablement qui que ce fût, et c'est à l'apparence que s'attachent le plus volontiers les railleurs. Cependant, cet aspect mal prévenant n'avait pas eu pour lui de fâcheuses conséquences. En effet, Mark Ivanovitch, en sa qualité d'homme de sens, avait nettement pris la défense de Semyon Ivanovitch et proclamé dans un style heureusement fleuri que Prohalchin était un homme mûr et sérieux pour qui était passé depuis beaux jours le temps des élégies. En sorte que, si Semyon et Ivanovitch n'avaient pas d'agréable rapport avec tout ce monde-là, c'était bien uniquement sa faute. L'attention était tout d'abord fixée sur son avarice sordide, que ces messieurs n'avaient pas été longs à découvrir et à mettre à son actif. Ainsi, il ne consentait pour rien au monde à prêter sa théière, fût-ce pour un instant, ce qui se légitimait d'autant moins qu'il ne buvait que fort peu de thé, le remplaçant volontiers par certaines tisanes délectables et composées d'herbes champêtres, dont il avait toujours une ample provision. Son mode d'alimentation était d'ailleurs très particulier. Jamais il ne s'accordait la totalité du menu ordinaire d'Oustinia Féodorovna. Le prix global en étant de 50 kopecks, Semyon Ivanovitch n'en consommait que la valeur de 25 kopecks qu'il faisait servir par portion. Zutschti avec un morceau de pâté ou un plat de viande, mais le plus souvent il ne prenait ni tchti ni viande, se contentant de manger son pain avec des oignons ou du fromage blanc ou des concombres au sel ou tout autre comestible à bas prix, et ne se décidait à revenir au repas à demi-prix que s'il mourait de faim. Ici, le biographe avoue qu'il ne se fut jamais abandonné à des détails aussi insignifiants en apparence, à des détails aussi misérables et, disons-le, presque outrageants pour des lecteurs épris de style noble, si ces détails ne constituaient pas une particularité distinctive, un trait dominant du caractère de notre héros. En effet, M. Prohalchin n'était point dénué de ressources, comme il se plaisait à l'affirmer, jusqu'au point de ne pouvoir manger à sa faim. S'il se privait sans la moindre vergogne et en tout mépris des médisants, c'était pour la satisfaction de sa folle avarice et aussi par un excès de prévoyance, ainsi qu'on le comprendra mieux ultérieurement. Mais nous nous ferions scrupule d'ennuyer nos lecteurs d'une revue détaillée de toutes les lubies de Semyon et Ivanovitch, et non seulement nous renonçons à la description de son costume, si pittoresque et divertissante qu'elle eût pu nous paraître, mais il faut encore qu'Oustinia Féodorovna en ait formellement témoigné pour que nous rapportions ceci. Jamais Semyon Ivanovitch n'aurait rien confié à la blanchisseuse, ou tout au moins il s'y serait résolu si rarement qu'on pouvait fort bien ignorer l'existence de la moindre pièce de linge au nombre de ses propriétés mobilières. La logeuse l'a dit, pendant 20 années consécutives, le très cher Semyon Ivanovitch s'était plu à accumuler la pourriture dans le coin à lui dévolu, sans en sembler autrement honteux, et outre que durant toute sa vie terrestre, il n'avait point fait cas des chaussettes, mouchoirs et autres vains ornements, elle avait pu voir de ses propres yeux, par le trou d'un vieux paravent, qui lui arrivait de ne pouvoir couvrir la nudité de son corps. Ces bruits ne commencèrent à se répandre qu'après le trépas de Semyon Ivanovitch, car de son vivant, et c'était de là surtout que provenait sa mésintelligence avec les autres pensionnaires, il ne pouvait souffrir, en dépit des plus amicales relations, qu'on se permît de venir fourrer le nez dans son coin, sans en avoir au préalable sollicité l'autorisation. C'était un homme intraitable, concentré et inaccessible aux vains discours. Il n'admettait pas plus les conseils que les railleries et s'entendait à merveille à river son clou sans tarder à qui s'en avisait. « Donner des conseils, polisson, un farceur de ton espèce ferait beaucoup mieux de s'occuper de soi-même, et voilà !» Il n'était pas fier, il tutoyait volontiers tout le monde. Ne supportant pas l'indiscrétion, ni qu'averti de ses manies, on l'interrogea malicieusement sur le contenu de son coffret. Semyon Ivanovitch possédait un coffret. Ce coffret, placé sous son lit, Il le gardait comme la prunelle de ses yeux, encore que chacun sût fort bien qui ne renfermait que quelques vieux chiffons, deux ou trois paires de souliers hors d'usage et toutes sortes de hardes et de vieilleries. Il y tenait fort, et on l'avait même entendu annoncer son intention de se procurer un nouveau cadenas de fabrication allemande. Le jour qu'entraîné par son imbécilité, Zénobie Prokofitch avait émis cette idée indécente et grotesque que sans doute Semyon Ivanovitch dissimulait ses économies dans ce coffret à l'intention de ses héritiers, toute l'assistance resta atterrée devant les conséquences extraordinaires d'une sortie déplacée. Tout d'abord, M. Prohartchin ne sut trouver d'expression convenable pour rétorquer une insinuation aussi saugrenue. Un long instant s'écoula, pendant lequel ne sortirent de sa bouche que des paroles dénuées de toute signification. On finit, non sans peine, par comprendre que Semyon Ivanovitch reprochait à Zénobie Prokofitch un acte déjà ancien mais sordide, puisqu'il prédisait à l'imprudent l'échec certain de toutes ses tentatives de pénétrer dans le grand monde, en même temps qu'une non moins certaine raclée de la part d'un tailleur auquel le dit Zénobie Prokofitch devait quelque argent. Au surplus, ce n'était qu'un gamin. « Oh, tu prétends devenir enseigne de hussard, tu peux te fouiller, tu ne le seras jamais, et par-dessus le marché, quand les chefs connaîtront toutes tes histoires, ils te colleront greffier. Voilà, entends-tu, polisson ?» Après quoi, Semyon Ivanovitch parut se calmer et se consoler. Mais au bout de 5 heures de silence, il se reprit à sermonner Zénobie Prokofitch pour la plus grande stupéfaction de l'assemblée. Et ce n'était pas fini. Le soir, quand Mark Ivanovitch et le pensionnaire Preprovienko organisèrent un thé et qu'ils eurent convié le greffier Okeanov, Semyon Ivanovitch quitta son lit et va se joindre à eux en versant sa quote-part de 15 ou 20 kopecks. Ce besoin de thé n'était évidemment qu'un prétexte, car il se mit tout de go à développer copieusement ce thème qu'un homme pauvre, n'étant qu'un homme pauvre, ne saurait songer à faire des économies. Puis, l'occasion se montrant propice, M. Prohartchin en profita pour avouer sa propre pauvreté. L'avant-veille, il avait même pensé emprunter un rouble à certains insolents, mais maintenant, bien sûr, qu'il n'en ferait rien. Un pareil polisson n'aurait eu qu'à aller s'en vanter. Quant à lui, Semyon Ivanovitch, il envoyait chaque mois 5 roubles à sa belle-sœur, sans quoi la pauvre femme fût morte, et pourtant, si elle eût été morte, il eût pu depuis longtemps s'acheter un habit neuf. Et il parla ainsi fort longuement, fit si bien passer et repasser à travers ses propos et l'homme pauvre et la belle-sœur et les 5 roubles, qu'il finit par s'embrouiller et par se taire. Ce n'est que 3 jours plus tard, alors que personne ne pensait plus à le taquiner et qu'on avait complètement oublié cette affaire, qu'il y mit cette conclusion que Zénobie Prokofitch, cet homme insolent, à peine entré au hussard, perdrait sa jambe à la guerre, qu'il n'y aurait d'autre ressource que la substitution d'une jambe de bois à la jambe avariée, et que ce serait alors qu'on verrait Zénobie Prokofitch venir demander du pain à Semyon Ivanovitch, lequel, d'ailleurs, se ferait un véritable plaisir de repousser sans un regard les supplications de ce gamin. Il va sans dire que tout cela fut jugé intéressant et curieux au plus haut point. Sans plus de réflexion, l'assemblée des pensionnaires résolut de livrer à Semyon Ivanovitch un assaut décisif. Or, depuis que M. Prohartchin s'était résolu de se mêler à la compagnie, il semblait tenir à rester au courant de tout et multiplier les questions dans on ne sait quel but mystérieux, de sorte que les conflits éclataient sans difficulté ni préliminaire. Pour entrer en matière, Semyon et Ivanovitch, s'étaient privés d'un moyen extrêmement subtil et déjà connu de nos lecteurs. Vers l'heure du thé, il quittait son lit, s'approchait du groupe comme peut le faire un homme modeste, intelligent, affable, et versait les 20 copecs réglementaires en annonçant son intention de participer à cette petite fête. Toute cette belle jeunesse se concertait en de rapides clins d'œil et l'on entamait aussitôt une conversation d'abord décente et sérieuse. Mais quelques hardis gaillards se mettaient soudain à débiter un choix de nouvelles plus souvent aussi apocryphes qu'invraisemblables. Par exemple, il avait entendu son Excellence confier à Demide Vassilievitch que les employés mariés valaient mieux que les célibataires et que l'avancement leur convenait de préférence. Car les hommes vraiment calmes et sensés acquièrent dans la pratique de la vie matrimoniale de nombreuses capacités. En conséquence, l'orateur, désireux de se distinguer et de voir grossir ses appointements, se proposait de convoler en juste noce avec une certaine Fevronia Prokofievna. Ou bien on avait souvent remarqué chez certains d'entre ses collègues une telle ignorance des usages mondains et des bonnes manières qu'il semblait impossible de les admettre dans la société des dames. Pour remédier à un aussi fâcheux état de choses, il avait été résolu en haut lieu qu'une retenue serait opérée sur les appointements en vue d'organiser une salle de danse où se puissent acquérir et la noblesse des attitudes et la bonne tenue et la politesse et le respect des vieillards et la fermeté du caractère et la bonté du cœur et le sentiment de la reconnaissance et autres très agréables qualités. D'autres fois, on apprenait soudain que tous les employés, même les plus anciens, allaient devoir passer des examens pour qu'on puisse se rendre compte de leur degré d'instruction, d'où il résulterait que bien des voiles se déchireraient et que bien des gens se verraient contraints à jouer carte sur table. En un mot, il se racontait là mille choses plus absurdes les unes que les autres. Tous feignaient la crédulité et, comme très intéressés, faisaient quelques allusions aux effets qu'une telle mesure pourrait avoir pour certains membres de la compagnie, ou, prenant un air triste, ils hochaient la tête, semblant implorer des conseils de tous côtés et qu'on leur enseignât la conduite à tenir en cas d'un pareil malheur. On le comprend du reste, même un homme moins simple, moins timide que M. Prohaltchin en eut perdu la tête de tous ces racontars. Et tous les signes le révélaient manifestement. Semyon et Ivanovitch étaient d'esprit borné et mal préparés à toute idée pour lui nouvelle. De toute évidence, il dut tourner et retourner en sa tête chacune de ses nouvelles sensations, chercher le motif, et finir par s'embrouiller dans ce dédale de pensées insolites avant que d'avoir pu les adapter à sa compréhension particulière. Et ce jeu avait fait découvrir chez Semyon Ivanovitch un certain nombre de facultés singulières et fort insoupçonnées. Des bruits circulèrent à son sujet et, suffisamment grossis, parvinrent jusqu'à la chancellerie. L'effet en fut encore accentué par des changements apparus dans la physionomie de notre héros, une physionomie qui n'avait pas bougé pendant une succession d'années innombrables. Son visage s'était fait inquiet, son regard soupçonneux et craintif. Il commença de tressaillir et à chaque nouveau canard de prêter une oreille attentive et fiévreuse. Pour comble de changement, est-ce qu'il ne devint pas un passionné chercheur de vérité? Cette manie prit de telles proportions qu'il osa enfin s'informer à deux reprises de l'exactitude des fameuses nouvelles auprès de Demide Vassilievitch lui-même, et si nous passons sous silence les suites de ces démarches de Semyon Ivanovitch, c'est par pur respect pour sa mémoire. On en conclut d'abord que c'était une sorte de misanthrope, négligeant des convenances modernes. On le trouva fantasque, mais l'on ne se trompa pas, car il fut surpris maintes fois à s'oublier par moments, restant là, bouche bée, la plume en l'air, comme pétrifié, plus semblable à l'ombre d'un être intelligent qu'à cet individu lui-même. Et il advint plus d'une fois qu'à l'aspect inattendu de cet œil terne et hagard, tel collègue distrait se mit à trembler au point de laisser choir un pâté sur son rapport ou d'y écrire quelques vocables déplacés. L'indécence d'une pareille conduite offusquait toute personne convenable, si bien qu'on finit par n'avoir plus de doute sur le désordre mental de Semyon Ivanovitch. Un jour même, le bruit se répandit par la chancellerie que M. Prohartchine avait fait peur à Demide Vassilievitch lui-même, qui n'avait pu que reculer lorsque, dans un couloir, il s'était trouvé face à face avec ce personnage d'attitude inquiétante. Quand Semyon Ivanovitch sut cela, il se leva lentement, chercha avec précaution son chemin parmi les tables et les chaises, prit son pardessus et disparut pour un certain temps. Avait-il eu peur? Quelque autre raison l'avait-elle dirigé? Nous ne savons. Mais le fait est qu'on ne put le trouver de quelque temps, ni chez lui, ni à son bureau. Nous ne chercherons pas à expliquer les actions de Semyon Ivanovitch par le dérangement de son esprit. Nous ferons seulement remarquer que notre héros n'était point un homme du monde, que, timide, il avait vécu jusque-là dans une solitude presque complète, se signalant par un caractère aussi mystérieux que taciturne. Ainsi, pendant tout son séjour à Pieski, il était resté étendu sur son lit derrière le paravent, dans un silence absolu et sans l'ombre de relation. Mystérieux comme lui, ces deux colocataires, d'abord, menaient exactement la même vie, et ce trio avait passé quelque 15 ans à gésir, chacun derrière son paravent. Dans un silence auguste, les heures et les jours s'étaient écoulés heureux et torpides, et tout alors allait si bien que ni Semyon Ivanovitch ni Oustina Fyodorovna ne se rappelaient plus par quel hasard ils s'étaient rencontrés. Il y a peut-être 10 ans, peut-être 15, peut-être 25 ans qu'il vit chez moi, le cher homme, disait la femme à ses nouveaux locataires. On jugera donc fort naturel que notre héros se soit trouvé quelque peu troublé et désagréablement au cours de cette dernière année parmi une jeunesse bruyante, lui si sérieux, si réservé. La disparition de Semyon Ivanovitch provoqua un grand émoi dans la pension, d'abord parce qu'il était le favori, et aussi parce que son passeport, resté en garde chez la logeuse, ne put se retrouver. Pendant 2 jours, Oustinia Féodorovna répandit un torrent de larmes, suivant son habitude au moment critique. Pendant 2 jours entiers, elle s'en prit aux autres locataires, gémissant qu'on avait fait toutes les misères imaginables à son pensionnaire et qu'elle l'avait perdu à cause de ses moqueries. Le 3e jour, elle leur enjoignit à tous d'aller chercher l'égaré et de le lui ramener coûte que coûte, mort ou vivant. Vers le soir, on vit rentrer le premier, le greffier Soubdine, qui se déclara sur les traces du fuyard. Il l'avait vu au marché de Tolkoutchi, et d'ailleurs, il l'avait suivi de très près, mais n'avait osé lui parler, même lorsqu'il s'était trouvé nez à nez avec lui à l'incendie de la ruelle de Krivoy. Une demi-heure plus tard, arrivèrent Okeanov et Kantaryov, confirmant de point en point le rapport de Soubdine. Ils avaient passé tout près du fugitif, à 10 pas peut-être, mais il n'avait pas osé lui parler non plus. Tous deux avaient remarqué que Semyon Ivanovitch était en compagnie d'une sorte de mendiant tapeur et ivrogne. Arrivèrent enfin les deux derniers locataires. Quand ils eurent attentivement écouté tout ce qui précède, ils décidèrent que Prohalchin ne pouvait pas être loin et qu'il ne tarderait pas à revenir. Ils savaient d'ailleurs depuis longtemps que Prohalchin fréquentait ce mendiant, homme fort peu recommandable, tapageur et sournois, qui avait dû le séduire au moyen de quelques ruses. Cet homme avait fait sa première apparition sous les auspices du camarade Remnioff et avait passé quelques jours à la pension. Il avait prétendu souffrir pour la vérité. Auparavant, il aurait été fonctionnaire en province et se serait vu révoquer avec ses collègues après le passage de l'inspecteur. Venu à Saint-Pétersbourg, il s'était jeté aux pieds de Porfiry Grigorievitch en implorant de lui une place dans quelques bureaux, place qu'il avait obtenue. Mais poursuivi par le mauvais sort, il s'était encore trouvé à pied par suite de la fermeture du bureau, qu'on avait plus tard réorganisé, mais sans le reprendre au nombre des nouveaux employés, en raison de son incapacité administrative et aussi de sa capacité pour un tout autre genre d'occupation, sans parler de son amour de la vérité et des intrigues de ses ennemis. Après ce récit, au cours duquel ce Zimovaïkin avait plusieurs fois embrassé son rival Remnioff, homme morose à la barbe inculte, il avait salué très bas chacun des assistants à tour de rôle, sans omettre la domestique Avdotia, en les proclamant tous ses bienfaiteurs, puis s'avouait en ce qui le concernait un être indigne, lâche, importun, tapageur et sot, et priait l'honorable société de ne pas lui en vouloir dans sa misère. Ayant obtenu la protection de ces messieurs, le sieur Zimovaïkin devint aussitôt gai et content, et se mit à baiser les mains d'Oustinia Féodorovna, en dépit des modestes protestations de celle-ci, déclarant que ses mains étaient grossières et nullement nobles. Il promit aussi pour le soir même de faire apprécier tous ses talents dans une danse de caractère. Mais le lendemain même, l'aventure reçut un dénouement lamentable. Soit que Zimovaïkin eût mis par trop de caractère dans sa danse, soit qu'il eût réellement déshonoré et outragé Oustinia Féodorovna, comme elle l'affirmait, elle qui connaissait Yaroslav Ilitch et qui eût pu depuis longtemps être l'épouse d'Oberofficier. En tout cas, Zimovaïkin se vit contraint de déguerpir. Il s'en alla donc, revint, se fit à nouveau chasser ignominieusement, sut s'introduire dans les bonnes grâces de Semyon Ivanovitch, dont il s'attribua le meilleur pantalon, et reparut donc, une fois de plus, en qualité de séducteur de notre héros. L'hôtesse ne sut pas plutôt celui-ci sain et sauf, et la recherche du passeport devenue conséquemment inutile, qu'elle se calma instantanément et s'en fut se reposer. Cependant, quelques-uns des pensionnaires convinrent de faire aux fugitifs une réception triomphale. Sans scrupule d'en abîmer les charnières, ils écartèrent le paravent du lit, qu'ils défirent quelque peu, et au pied duquel ils placèrent le fameux coffret. Sur le lit même, ils étendirent la belle-sœur, poupée confectionnée à l'aide du châle de la logeuse, de son bonnet et de son manteau. Cela jouait un personnage à s'y tromper. Cette besogne une fois menée à bien, ces messieurs attendirent impatiemment l'arrivée de Semyon Ivanovitch afin de lui annoncer que sa belle-sœur avait quitté sa province pour le venir voir et que cette femme infortunée n'avait eu d'autre ressource que de descendre derrière le paravent. On attendit longtemps. Marc Ivanovitch eut le temps de jouer et de perdre son salaire d'une quinzaine au bénéfice de messieurs Preporovienko et Kantariov. Okeanov eut tant de fois le nez battu de cartes en manière de pénitence que cet appendice en devint tout enflé et rougi. Ayant dormi tout son sou, Avdotia allait se lever pour apporter du bois et chauffer le poêle. Quant à Zenobi Prokofitch, il se fit tremper comme une soupe à force d'aller constamment regarder dans la rue s'il ne verrait pas arriver Semyonet Ivanovitch. Mais notre héros ne se montrait point, pas plus que son mendiant d'ami. De guerre lasse, chacun finit par se coucher, mais en laissant toutefois la belle-sœur derrière le paravent. Ce n'est que vers 4 heures du matin qu'on entendit à la porte cochère un tapage formidable à constituer déjà une digne récompense des efforts de ces messieurs pour ne pas dormir. C'était lui, lui-même, Semyon Ivanovitch. Monsieur Prohantchine, mais dans quel état ? Ce fut un rage général, une telle émotion qu'on ne pensa même plus à la belle-sœur. Le déserteur semblait sans connaissance. Il fut amené, ou mieux encore apporté, sur les épaules par un cocher de nuit en guenilles, morfondu et transi. À la logeuse, qui demandait où son pensionnaire avait bien pu se saouler de la sorte, le cocher répondit « Ah, il est pas saoul. Je t'assure qu'il n'a pas bu une goutte de quoi que ce soit. » « Oh, ça va être une syncope ou un coup d'apoplexie ?» Pour plus de commodité, on adossa Semyonet Ivanovitch au poêle, et l'ayant examiné, on reconnut qu'en effet, il n'y avait pas là d'ivresse, mais non plus d'apoplexie. Sans doute avait-il quelque chose, mais quoi ? Car, sans pouvoir remuer la langue, il était secoué de tressaillement et battait des paupières et fixait un regard étonné, tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, de ses assistants en toilette de nuit. On interrogea le cocher afin de savoir où il l'avait ramassé. « Oh, ce sont des messieurs, joliment gays, qui me l'ont remis tel quel. Il revenait de Colombe à... Se sont-ils battus ? A-t-il eu des convulsions ? Qui sait ? En tout cas, c'était des messieurs très bien et joliment gais. » On souleva Semyonet Ivanovitch et on le porta sur son lit. Quand, en s'y étendant, il sentit la belle-sœur à ses côtés et le coffret sous ses pieds, il poussa un cri terrible, se mit presque à 4 pattes et, tout tremblant, s'efforça de couvrir de ses mains et de son corps la plus grande surface possible de sa couchette, tout en jetant sur les assistants des regards sauvages et effarés, comme s'il eût voulu dire qu'il préférait la mort à l'abandon, ne fût-ce que de la 100e partie de son bien. Il resta ainsi couché 2 ou 3 jours, derrière son paravent, à l'écart du monde et de tous ses 20 tracas. Dès le lendemain, personne ne pensait plus à lui. Le temps, cependant, suivait son cours, et les heures succédaient aux heures, les jours aux jours. Une sorte de torpeur délirante avait envahi la tête brûlante et lourde du malade. Mais il ne bougeait pas, ne gémissait pas, ne se plaignait pas. Au contraire, il gardait un silence farouche et s'écrasait contre son lit, tel un lièvre effrayé qui se serre contre la terre à l'approche du chasseur. Par moments, un silence morne et désespérant pesait sur le logement, signe que tous les pensionnaires étaient partis chacun à ses occupations, et Semyonet Ivanovitch pouvait tout à son aise distraire sa tristesse en écoutant les bruits proches de la cuisine où l'hôtesse vaquait à ses occupations, où le frôlement courant dans toutes les chambres de chaussures éculées d'Avdotia qui nettoyait la maison. Des heures s'écoulaient ainsi, heures de paresse et de somnolence, heures monotones, telles les gouttes d'eau qu'on entendait tomber dans le baquet de la cuisine. Puis, un par un ou par groupe, les pensionnaires rentraient et Semyon Ivanovitch pouvait les entendre se plaindre du temps, réclamer le repas, faire du tapage, fumer, se quereller, se réconcilier, jouer aux cartes et entrechoquer les tasses en préparant le thé. Machinalement, le malade faisait un mouvement pour se lever et se joindre à eux en acquittant le droit fixé, mais soudain, il retombait dans sa torpeur. Il rêvait alors que, depuis un moment, il était à table, prenant le thé et participant à la conversation. Prompt à saisir l'occasion, Zenobi Prokofitch glissait dans l'entretien quelques allusions concernant les belles-sœurs et leur rapport possible avec tels honnêtes gens. Ici, Semyon Ivanovitch s'efforçait de se disculper et de répondre, mais tombant à la fois de toutes les bouches la toute-puissante phrase protocolaire. « Nous avons maintes fois remarqué, lui coupait net toutes ses répliques, et il n'avait plus rien de mieux à faire que de rêver du premier jour du mois, jour béni où il touchait les roubles de l'administration. Dans l'escalier, il déployait les billets reçus, et jetant un regard furtif autour de lui, s'empressait de dissimuler la moitié d'un salaire bien gagné dans la tige d'une de ses bottes. Toujours dans l'escalier, sans se rendre nullement compte que, endormi, toutes ses évolutions, il les accomplissait dans son lit, il se promettait, une fois rentré chez lui, de payer sa pension à son hôtesse, puis il achèterait quelques objets indispensables, en faisant bien et dûment constater à qui de droit que des retenues avaient été opérées sur ses appointements, qu'il ne lui restait plus rien à envoyer à sa belle-sœur. Puis il la plaindrait comme il sied, et deux jours d'affilée, il ne parlerait plus que d'elle. Au bout d'une dizaine de jours, il reviendrait encore sur sa misère, pour que les camarades en fussent bien plus pénétrés. Toutes ces décisions prises, il s'apercevait qu'Andrei Yefimovitch, ce petit homme silencieux et chauve que trois pièces avaient séparé de lui au bureau pendant 20 ans sans qu'il n'eût entendu jamais une seule parole, était lui aussi dans l'escalier du bureau à compter ses roubles pour déclarer en branlant la tête « C'est de l'argent !» Et descendant l'escalier, il concluait tristement « Point d'argent, pas de nourriture !» Sur le perron, il ajoutait « J'ai 7 enfants, monsieur !» Puis, sans scrupule de se conduire comme un fantôme, et tout au retour des lois de la vie réelle, le petit homme chauve s'élevait soudain à une archine et plus au-dessus du sol. Sa main qui tremblait, traçant en l'air une ligne oblique, descendante, il grommelait que l'aîné allait au lycée, et fusillait M. Prohatchin d'un regard indigné, comme s'il l'eût rendu responsable de l'existence de ses 7 enfants, enfonçait son chapeau jusqu'aux yeux, tournait à gauche et disparaissait. Semyon Ivanovitch en restait tout secoué, et bien qu'absolument sûr de son innocence, commençait à admettre que c'était de sa faute s'il y avait jusqu'à 7 enfants en cette malheureuse maison. Pris de peur, il se mettait à courir, car il lui semblait bien que, revenu sur ses pas, le petit homme chauve cherchait à le rattraper dans la formelle intention de le fouiller et de lui prendre son argent au nom de ce septain d'enfants, écartant d'autorité toute considération à ses belles sœurs et à leur relation possible avec Semyon et Ivanovitch. Et M. Prohatchin courait toujours à perdre haleine, tandis qu'à côté de lui couraient aussi quantité de gens dont l'argent bruissait dans les poches de leurs gilets. Puis tout le monde courut, et les trompettes des pompiers sonnèrent, et des vagues humaines le portant presque sur leur crête, Il roula jusqu'au lieu de cet incendie auquel il avait assisté dernièrement en compagnie du tapeur. L'ivrogne, enfin je veux dire M. Zimovaïkin, l'y attendait. Il vint à la rencontre de Semyon Ivanovitch, s'empressa autour de lui, le prit par la main et le conduisit jusqu'au cœur compact de la foule. Comme alors une tourbe houleuse s'agitait autour d'eux, obstruant le quai de la Fontanka, entre les deux ponts ainsi que toutes les rues et ruelles avoisinantes. Comme alors tous deux se trouvaient repoussés, acculés dans un immense chantier de bois, tout rempli de curieux, venus de la ville du marché Tolkouchi, sortis des maisons et des cabarets d'alentour. Il revoyait tout cela, aussi nettement que s'il y assistait en réalité, et au travers des tourbillons de la fièvre et du délire, d'étranges figures se mirent à lui passer devant les yeux. Il en reconnaissait quelques-unes. C'était ce monsieur d'aspect si imposant, haut d'une sagène au moins, avec une moustache d'une archine, et qui pendant tout l'incendie était resté campé derrière son dos, le complimentant, quand notre héros, saisi d'une sorte de transport frénétique, s'était mis à trépigner, comme pour applaudir aux prouesses des pompiers qu'il découvrait fort bien de sa place élevée. L'autre était ce grand gaillard, qui d'un coup de poignet l'avait hissé sur ce mur, qu'il prétendait franchir en vue de je ne sais quel sauvetage. Il vit filer ensuite le visage du vieillard au teint terreux, vêtu d'une robe de chambre et limée, que saignait quelque chose d'indéfinissable, et qui, avant qu'éclatât l'incendie, afin de chercher dans quelle épicerie des biscuits et du tabac pour son locataire, fendait maintenant la foule vers le logis en feu, où brûlait sa femme, sa fille étant trouble et demi cachée sous un lit de plumes. Mais la forme la plus nette fut celle de cette pauvre femme dont il avait déjà plusieurs fois rêvé au cours de sa maladie, et qu'il revoyait telle qu'elle était, en chaussures d'écorce, un bâton à la main et toute déguenillée, avec un sac tressé sur le dos. Elle braillait plus fort que les pompiers et que la foule ensemble, brandissait sa béquille et gesticulait en disant que ses propres enfants l'avaient chassée et que du coup elle avait perdu ses deux pièces de 5 copecks. Les enfants, les pièces, les enfants. Elle ne cessait d'entremêler ses paroles dans un galimatia incompréhensible, et tout le monde avait fini par la laisser là, en désespoir de s'y reconnaître. Mais la vieille ne se calmait pas. Elle criait, hurlait, gesticulait, n'accordant aucune attention à l'incendie, ni à la foule, ni au malheur d'autrui, pas plus qu'aux étincelles et aux flammèches qui venait tomber jusque-là. Finalement, M. Prohatchin sentait la peur le gagner, car il voyait clairement que tout cela n'était pas si simple et ne se passerait pas comme ça. En effet, tout près de lui, enveloppé d'un manteau déchiré, un paysan montait sur une pile de bois et, les cheveux et la barbe roussis, il se mettait à émeuter la foule contre Semyon et Ivanovitch. Et la foule continuait à s'épaissir, et le paysan de vociférer, pétrifié de terreur. M. Prohatchin se remémorait tout à coup que ce paysan n'était autre qu'un certain cocher de fiacre ignoblement volé par lui 5 ans plus tôt, lorsqu'il avait sauté de la voiture avant de l'avoir payé pour disparaître en coup de vent par une maison à 2 issues. Ses talons bondissaient comme s'il avait couru sur une plaque de métal surchauffée. M. Prohatchin voulut crier, parler, mais sa voix s'étranglait dans sa gorge. Il sentait la pression de la foule furieuse qui l'enserrait, tel un serpent multicolore, et l'étouffait. Dans un effort surhumain, il se réveillait, mais ce n'était que pour s'apercevoir que son coin brûlait avec son paravent et tout l'appartement, Oustinia Fyodorovna et ses locataires. Son lit était en flammes et aussi son oreiller, sa couverture, son coffre jusqu'à son précieux matelas. Semyon Ivanovitch sauta de son lit, s'empara du matelas et courut en le traînant derrière lui. C'est ainsi qu'il pénétra en chemise et pieds nus dans la chambre de son hôtesse, où il fut saisi, ligoté et reporté derrière le paravent qui, soit dit en passant, ne brûlait pas du tout. Mais c'est sa pauvre tête, en revanche, qui brûlait. On le recoucha. Ainsi l'homme aux marionnettes déguenillées, mal rasées et moroses, range au fond d'une caisse le polichinelle qui s'est suffisamment démené, ressent tout le monde et vendant son âme au diable. Jusqu'à une prochaine représentation, le pantin interrompra son existence, couché dans le coffre en compagnie de ce même diable, du nègre, de Pierrot, de Colombine, et de l'heureux amant de cette dernière, le commissaire de police. Toute la pension s'assembla autour du lit de Semyon Ivanovitch et resta là, faisant converger sur lui des regards curieux. Enfin, il reprit ses esprits, et par pudeur ou par quelque autre raison, il se mit de toutes ses forces à tirer sur soi la couverture, sans doute afin de se cacher à tous ses yeux compatissants. Le premier, Mark Ivanovitch, rompit le silence et, en homme sensé, commença de dire doucement qu'il fallait se calmer, que c'était une chose mauvaise et honteuse d'être ainsi malade, que c'était bon pour les enfants, qu'il fallait se guérir et reprendre le service. Il termina même par une petite plaisanterie, disant que les appointements des employés malades n'étaient pas encore fixés et que, comme on ne leur donnait pas non plus d'avancement, une telle situation, suivant lui, ne pouvait porter d'appréciables profits. Bref, tout le monde prenait une part évidente à la souffrance de Semyon Ivanovitch et le plaignait. Mais avec la plus incompréhensible ingratitude, celui-ci s'obstina à rester au lit, à se taire et à tirer sa couverture. Pourtant, Mark Ivanovitch ne se tint pas pour battu et, se contenant, prononça quelques douces paroles, car on doit des ménagements aux malades. Mais Semyon Ivanovitch ne voulait toujours rien entendre. D'un air méfiant, il grommelait on ne sait quoi entre ses dents, et soudain il se mit à rouler de droite et de gauche des yeux furieux, qui eussent voulu pouvoir réduire à eux seuls toute l'assistance en poussière. Une telle attitude rendait superflue tous les ménagements, et ne se contenant plus, voyant que cet homme s'était juré de s'entêter, très offensé, Mark Ivanovitch se mit en colère, déclara net et sans autre préambule qu'il était temps de se lever, que ça ne rimait à rien de rester ainsi couché sur les deux oreilles, qu'il était sot, indécent et mal élevé de crier nuit et jour des histoires d'incendie, de belle-sœur, d'ivrogne, de coffre et de diable sait quoi encore, et que si Semyon Ivanovitch n'avait pas envie de dormir, il n'avait pas le droit d'en empêcher les autres et qu'il voulut bien se le tenir pour dit. Ce discours produisit son effet. Semyon Ivanovitch se tourna tout de go vers l'orateur et lui déclara non sans fermeté, quoique d'une voix faible et enrouée. « Toi, polisson, tais-toi. Tu n'es qu'un méchant bavard. Te prends-tu donc pour un prince, hein ?» Là-dessus, Mark Ivanovitch s'emportait quand il se ressouvint d'avoir affaire à un malade. Il se calma et voulut lui faire honte. Derechef Semyon Ivanovitch riposta, affirmant qu'il ne tolérait aucune plaisanterie à son égard, fût-ce de la part d'un faiseur de verre comme Mark Ivanovitch. Un silence s'ensuivit. Enfin, revenu de son étonnement, Mark Ivanovitch déclara d'un ton ferme et non sans éloquence que Semyon Ivanovitch devait se savoir en bonne société, qu'il ne devait point ignorer comment on se conduit entre gens du monde. À l'occasion, Mark Ivanovitch cultivait le genre oratoire et aimait imposer à ses auditeurs. Au contraire, et sans doute de par sa longue pratique du silence, Semyon Ivanovitch avait le geste et la parole bref, et s'il lui arrivait de s'engager dans quelque trop longue période, un mot en déclenchait un autre, cet autre un troisième, et ainsi de suite, de sorte qu'en ayant bientôt la bouche pleine, il ne les émettait plus que dans le plus pittoresque désordre. C'est pourquoi, en dépit de toute sa sagesse, il lui arrivait de lâcher des bêtises. Il répondit « Tu mens, t'étais qu'un osseur, mais tu finiras par prendre ton sac et t'en aller mendier. T'es qu'un libre penseur, un va-du-pied. Voilà pour toi, poétaillon. » Semyon Ivanovitch, vous continuez à divaguer. « Sais-tu ?» répondit le malade. « Un sot divague, un chien divague, et le sage emploie son intelligence. » Tu connais rien, rien va du pied, savant que tu es, livre imprimé. Un jour tu prendras feu et tu t'apercevras même pas que ta tête brûle. Comprends-tu, l'apologue ? Eh bien, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites que ma tête brûlera ? D'ailleurs, Mark Ivanovitch n'acheva pas. Tout le monde voyait bien que Semyon Ivanovitch n'avait pas repris son équilibre mental et qu'il divaguait. Mais la logeuse ne put se tenir de rappeler incidemment qu'il y avait une fille chauve qui avait mis le feu à une maison de la ruelle Krivoy en allumant une bougie et en communiquant le feu au garde-manger. Mais un pareil accident n'arriverait certainement pas ici, et tout le monde pouvait se considérer en sûreté dans son coin. Voyons, Semyon Ivanovitch, s'exclama hors de lui Zinobi Prokofitch, interrompant l'hôtesse. Semyon Ivanovitch, pour qui vous prenez-vous donc? Nous ne sommes pas à vous raconter des histoires de belles-sœurs, ou d'examens, ou de danses. C'est ça que vous vous figurez, n'est-ce pas? Eh bien, toi, reprit notre héros, qui ramassa ses dernières forces pour se soulever sur son lit, furieux de ses marques d'intérêt. « Eh bien, toi, écoute-moi ça. Qu'est-ce qu'un bouffon? C'est toi ou un chien? Mais je dirais pas de bêtises pour te faire plaisir. Entends-tu, polisson? Je suis pas ton domestique, monsieur. » Semyon Ivanovitch voulait encore dire quelque chose, mais à bout de force, il retomba sur son lit. Tous restèrent là, bouche bée, devinant où en était maintenant leur commensal et ne sachant trop que faire pour lui porter secours. Soudain la porte de la cuisine grinça, s'entr'ouvrit, et l'on vit passer une tête, celle de cet ivrogne ami de Prohartchine, le sieur Zimoveykin, une tête qui examina timidement les locaux à son habitude. On eût dit qu'on l'attendait. Tout le monde lui fit signe d'approcher au plus vite. Enchanté, sans même ôter son pardessus, il s'approcha du lit. Sans aucun doute, Zimoveykin avait traversé dans la soirée des moments difficiles. Le côté droit de son visage disparaissait sous un pansement. Ses paupières tuméfiées se trempaient du pus et penchées par ses yeux, et de sa redingote, de tout son costume en loques, la partie gauche se trouvait enduite d'on ne sait quelle sale boue. Il portait sous le bras un violon qu'évidemment il allait vendre. On n'avait pas eu tort de l'appeler à la rescousse, car dès qu'il sut de quoi il retournait, il s'adressa à Semyon Ivanovitch d'un air de supériorité consciente, comme un homme qui connaît le bouton à pousser. « Voyons, Sienka !» s'écria-t-il, « lève-toi !»« Voyons, Sienka ! Prohartchine le sage, rends-toi la raison ! Si tu t'obstines, je te jette hors du lit ! Ne t'obstine pas, veux-tu ?» La brève énergie de ce discours ne laissa pas d'étonner les assistants, mais ils s'étonnèrent encore bien plus, en constatant que ces paroles et l'aspect du personnage impressionné, effrayé Prohantchine à un tel point que c'est à peine s'il put se décider à murmurer entre ses dents l'indispensable anathème. « Toi, malheureux, va-t'en, tu n'es qu'un misérable, un voleur, entends-tu, propre à rien, beau prince, un voleur. Mon frère, non, frère, riposta Dimoïkine, sans perdre un grain de son sang-froid. Sage Prohantchine, tu n'agis pas comme il faut. » Et, jetant autour de lui un regard satisfait, il poursuivit. « Et puis, elle n'est pas d'histoire, n'est-ce pas? Je te conseille de céder, si tu ne veux pas que je te démasque, que je raconte tout, entends-tu ?» Semyon Ivanovitch sembla vivement frappé de ces paroles. Il tressaillit et se mit à promener autour de lui des regards effarés. Enchanté de son effet, M. Zimovaïkine allait continuer quand Marc Ivanovitch devança son zèle et voyant Semyon Ivanovitch un peu remis, il lui fit observer que la culture de semblables conceptions était pour le moment non seulement inutile, mais encore nuisible, non seulement nuisible, mais absolument immorale, et que c'était faire tort aux autres et leur donner le plus funeste exemple. Tous attendaient le meilleur résultat de cette homélie, d'autant plus que Semyon Ivanovitch, tout à fait calme maintenant, y répondit avec modération. Une courtoise discussion s'engagea. Avec un fraternel intérêt, on s'enquérait auprès de Semyon Ivanovitch de ce qui avait pu l'effrayer pareillement. Il répondit, mais fort évasivement. On insista, il répliqua, chacun des deux parties reprit encore une fois la parole, et puis tout le monde s'en mêla, et la conversation prit un tour tellement étrange et surprenant que, positivement, c'est à ne pas savoir comment la rapporter. La modération se mua en impatience, l'impatience en cris, les cris en larmes, et furieux, Marc Ivanovitch finit par s'en aller l'écume aux lèvres, en déclarant que jusqu'alors il n'avait point rencontré d'homme aussi contrariant. Oplevaniev cracha de mépris, Okeanov parut effrayé, Zenobi Prokofitch pleura, et Ustinia Fyodorovna répandit un ruisseau de larmes, gémissant que c'en était fini de son locataire, qu'il avait perdu la raison et allait mourir si jeune, sans passeport, qu'elle était orpheline et que bien sûr on la menait à l'abîme. En un mot, tout le monde comprit et put se convaincre que la semence avait bien pris, que tout avait germé à souhait, que le sol avait été béni, et que Semyon Ivanovitch s'était merveilleusement bien irrémédiablement dérangé la tête en leur compagnie. Tous se turent, car s'ils avaient su terrifier Semyon Ivanovitch, eux-mêmes avaient peur maintenant et se sentaient pleins de compassion. « Comment ?» s'écria Marc Ivanovitch. « Mais que craignez-vous donc? Quelle mouche vous pique? Qui diable pense à vous seulement? De quel droit tremblez-vous ainsi? Qu'est-ce que vous êtes donc, un simple zéro, monsieur? Moins qu'une pelure d'orange, voilà ce que vous êtes. Y a-t-il là de quoi se frapper? Si une femme est écrasée dans la rue, allez-vous vous imaginer que vous devez l'être aussi? Et si une maison brûle, pensez-vous que votre tête doive brûler aussi, hein? « Eh bien, voyons, monsieur, quoi donc ?»« T'es bête !» marmottait Semyon Ivanovitch. « On te mangera le nez. Tu le mangeras toi-même avec du pain, sans seulement t'en apercevoir. »« Bête, bête !» vociférait Marc Ivanovitch, n'en pouvait croire ses oreilles. « Soit, admettons que je suis bête, mais est-ce que j'ai des examens à passer ?» À me marier, à apprendre la danse? Est-ce que la terre va me manquer? Quoi, petit père, vous n'avez pas assez de place? Le plancher va-t-il s'effondrer sous vous ? Oui, oui, on te demandera ton avis, on la fermera, voilà tout. Voilà tout, voilà tout, mais qu'est-ce qu'on fermera ? Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire-là, hein ? N'empêche pas que l'ivrogne, on l'a renvoyé. Bon, on l'a renvoyé, mais c'est un ivrogne. Tandis que vous, moi, nous sommes des hommes convenables. Convenables, bon, et pourtant, elle est toujours là. Toujours. Qui ça, elle ? Mais la chancellerie. La chancellerie. Ben bien sûr, estropié de cervelle, on en a besoin de la chancellerie. Oh, on en a besoin aujourd'hui, demain, et puis après-demain. Il peut très bien arriver qu'on n'en ait plus besoin. C'est toujours la même histoire. Mais alors, vous paierez d'un coup vos appointements de toute l'année. Hé, hé, Thomas, car vous êtes Thomas, l'incrédulité en personne. Et en considération de vos services anciens, on vous placerait dans une autre administration. Mes appointements, je serais bien obligé de les manger. Des voleurs m'en prendront, et puis j'ai une belle sœur, entends-tu ? Une belle sœur, tête de bois. Une belle sœur. Allons, êtes-vous un homme ? Un homme, oui, je suis un homme. Et toi ? Tout savant que t'es un imbécile, une tête de bois, voilà ce que tu es. J'ai pas besoin de répondre à tes boniments. Il vient un moment où toute place se supprime. Démide Vassilievitch, entends-tu ? Démide Vassilievitch l'a bien dit aussi. Oh, Démide, Démide, parfaitement. On se trouve tout bonnement sans place. Essaie donc de répondre à ça. Allons donc. Vous nous racontez des blagues, à moins que vous n'ayez attrapé un coup de marteau, tout simplement. Pas de fausse honte, dites-le si c'est vrai. Ah, mon petit père, vous avez perdu la tête. Oh, il a la tête perdue, il est fou, s'écriait-on en se tordant les mains de désespoir. La logeuse dut saisir Mark Ivanovitch à bras le corps, de crainte qu'il ne mît Semyon Ivanovitch en pièces. Sienka, au cœur si tendre, Sienka le sage, supplia Zimoveïkin, as-tu donc une âme de païen ? Toi, si simple, si gentil et si vertueux, ne m'entends-tu pas ? Hélas, tout cela ne vient que de ton excès de vertu. Moi, je ne suis qu'un stupide faiseur de tapage, un sale mendiant, et pourtant... Cet excellent homme ne m'a pas repoussé, il me traite avec considération. Je le remercie ainsi que la patronne. Je les salue jusqu'à terre. Et ce faisant, je ne fais que mon devoir, petite patronne. Ici, Zimovaïkin salua en effet jusqu'à terre d'un geste qui n'était pas dépourvu de noblesse. Semyon Ivanovitch voulut poursuivre son discours, mais cette fois, on ne lui en laissa pas le loisir. Ce fut un tollé général de supplications, d'arguments persuasifs, de consolations, tellement qu'il finit par avoir honte et d'une voix faible, demanda à s'expliquer. « Très bien, dit-il, c'est entendu. Je suis gentil et doux et vertueux et fidèle et dévoué. » Je donnerai jusqu'à la dernière goutte de mon sang, entends-tu, gamin, pour garder ma place. Mais je suis pauvre. Et si on l'a... Oh, silence, toi ! Elle existe maintenant, et puis tout d'un coup, il n'y en aura plus, comprends-tu ? Alors moi, je m'en irai par les chemins, mon sac sur le dos, entends-tu ? Sienka ! Hurla Zimoveïkin d'une voix plus forte que le tumulte. « Tu n'es qu'un libre penseur et je vais tout raconter. Qu'es-tu donc ? Un gueulard, tête de bélier, un imbécile, un faiseur de chahut qui se fera balayer de sa place sans cérémonie. Qu'es-tu donc ? C'est cela même, fit Semyon Ivanovitch. Comment cela même ? Allez, donc causer avec lui. Oui, comment parler avec lui ? Bien sûr, quand on est libre, et quand on reste au lit. Comme un libre penseur, comme un voltairien, Sienka, tu n'es qu'un libre penseur, un libre penseur. Assez ! Cria M. Prohartchine en agitant la main pour demander du silence. Mais comprends, comprends donc, idiot, je suis timide. Timide aujourd'hui, timide demain, et puis un beau jour, je perds ma timidité, je lâche une insolence. Et va te faire fiche, et je deviens libre penseur. Mais qu'est-ce qu'il a ? Tonna de nouveau Mark Ivanovitch en bondissant de la chaise où il s'était assis pour se reposer et se précipitant vers le lit tout bouleversé et tremblant de rage. Mais qu'est-ce qu'il a ? Espèce d'idiot que vous êtes, et quand vous n'auriez ni feu ni lieu, est-ce que le monde n'est fait que pour vous ? Seriez-vous un Napoléon, quoi ? Qu'est-ce que vous êtes ? Êtes-vous Napoléon ? Êtes-vous Napoléon, oui ou non ? Mais répondez donc un peu, monsieur, si vous êtes Napoléon. Mais monsieur Prohartchine ne répondit pas. Non que cette idée d'être un Napoléon l'emplit de confusion, ni qu'il redoutât d'assumer une pareille responsabilité, mais il se trouvait hors d'état de discuter, de dire quoi que ce fût de raisonnable. Une crise s'ensuivit. Un flot de larmes jaillit de ses pauvres yeux gris brûlés par la fièvre. Il se cacha le visage de ses mains amaigries et osseuses et se mit à parler à travers ses sanglots, gémissant qu'il était si pauvre, si malheureux, si simple, si sot, si ignorant, qu'on devait avoir la bonté de lui pardonner, de le soigner, de le défendre, de lui donner à manger et à boire, de ne pas l'abandonner. Dieu sait ce qu'il ne dit pas. Tout en se lamentant, il jetait autour de lui des regards terrifiés, comme s'il se fût attendu à ce que le plafond s'effondrât, à ce que le plancher s'enfonçât. Chacun le plaignait, les cœurs s'amollissaient de plus en plus. Toute sanglotante, la logeuse recoucha elle-même le malade. Enfin, pénétrée de l'inutilité de ses attaques contre la mémoire de Napoléon, Mark Ivanovitch reprit ses bonnes dispositions et accorda son assistance pour cette besogne. Jaloux de se rendre utile de leur côté, les autres proposèrent de préparer de la tisane de framboise, d'un effet immédiat et souverain dans toutes les maladies. Mais Zimovekin s'éleva contre cette prétention. D'après lui, rien ne valait une bonne tasse de camomille. Quant à Zenobi Prokofitch, avec son cœur excellent, il sanglotait, émettait des torrents de larmes et criait son repentir d'avoir épouvanté Semyon Ivanovitch en lui racontant toutes ses stupides histoires. Puis, considérant que le malade s'était plaint de sa pauvreté, y avait imploré l'aumône, il ouvrit une souscription pour le moment bornée au petit cercle des pensionnaires. Chacun soupirait et se lamentait et plaignait le sort misérable de Semyon Ivanovitch, sans pourtant parvenir à comprendre une pareille et aussi subite terreur. Mais à quel propos ? Encore s'il eût occupé quelque importante situation et qu'il eût eu femme et enfant, s'il se fût vu traîner devant un tribunal. Mais il ne valait pas tripette, n'ayant pour tout bien qu'un vieux coffre avec un cadenas allemand. Il était resté pendant 20 ans, couché derrière un paravent, ignorant tout du monde, de la vie et de ses peines. Et voilà, tout à coup, pour une vaine et sotte plaisanterie, qui se mettait la tête à l'envers et s'épouvantait à cette découverte que la vie est dure. Mais ne l'est-elle pas pour tout le monde ? S'il eût seulement pris la peine, comme le dit plus tard Okeanov, de penser que la vie est également dure pour tout le monde, il eût gardé sa raison et eût continué à vivre comme nous tous. De toute la journée, il ne fut question que de Semyon Ivanovitch. On revenait constamment près de lui, on lui demandait comment il allait, on lui prodiguait des consolations. Mais vers le soir, il n'avait plus besoin de consolation en proie à la fièvre et au délire. On fut sur le point d'aller chercher un médecin, et tous les pensionnaires s'engagèrent à le soigner et à le veiller toute la nuit à tour de rôle, afin qu'on fût prévenu en cas d'alerte. C'est pourquoi, ayant installé au chevet de Semyon Ivanovitch son camarade l'ivrogne, ces messieurs organisèrent une partie de cartes destinée à les tenir éveillés. Mais comme on jouait à la craie, cela ne présentait aucun intérêt et on s'ennuya bientôt. Alors on laissa le jeu et l'on se mit à discuter jusqu'à brailler et à taper sur la table, si bien que chacun finit par réintégrer son coin en vociférant des paroles violentes. Comme ils étaient tous furieux, personne ne voulut plus monter la garde. Tout le monde finit par s'endormir, et bientôt régna sur l'appartement un silence d'oubliette. De plus, le froid était intense. Okeanov s'endormit l'un des derniers, et voici ce qu'il raconta plus tard. Sans jouer réalité, j'ai eu l'impression que tout près de moi deux hommes causaient vers 2 heures du matin. Il avait reconnu Zimoveïkin en train de réveiller son ami Rybniov, et le couple s'était entretenu pendant un temps fort long. Puis le dernier s'était éloigné et il l'avait entendu essayer d'ouvrir la porte de la cuisine avec une clé. La patronne certifia par la suite que cette clé se trouvait sous son oreiller et qu'elle avait disparu cette nuit-là. Puis Okeanov avait cru entendre les deux hommes s'en aller derrière le paravent du malade et allumer une bougie. Au surplus, il n'en savait pas davantage, car il s'était endormi pour ne se réveiller qu'avec les autres, au moment où tous s'étaient précipités à bas du lit sur un cri à réveiller un mort. Il leur avait semblé à tous voir disparaître la lueur d'une bougie. Pendant cette alerte, le bruit confus d'une lutte retentissait derrière le paravent. Lorsqu'il y eut de la lumière, on put constater que c'était Rybniov et Zimoveïkin qui se battaient, s'accablaient de reproches et s'agonisaient d'injures. Rybniov cria même « C'est pas moi, c'est cet assassin !»«
Lâche-moi !» vociférait M. Zimoveïkin. « Je suis innocent et prêt à en prêter le serment !»
Il n'avait plus figure humaine, mais tout d'abord, on y fit guère attention, car le malade avait quitté son lit. Ce n'est qu'une fois les belligérants séparés qu'on retrouva M. Prohartchin étendu sous sa couche et probablement sans connaissance. Il avait attiré sur lui sa couverture et son oreiller, de sorte qu'on ne voyait plus sur le lit qu'un matelas vétuste et crasseux sans l'ombre de drap. Il n'y en avait d'ailleurs jamais eu. On retira Semyon Ivanovitch de sa position inférieure et on le recoucha sur le matelas, mais on s'aperçut tout aussitôt que tout serait inutile et que c'en était fait de lui. Ses membres se raidissaient et il soufflait à peine. On l'entoura, il tremblait de tout son corps, on le voyait bien s'efforcer de gesticuler et de parler, mais il ne pouvait pas plus bouger les mains que la langue. Pourtant, il battait les paupières un peu comme, dit-on, battent celles des têtes que vient de trancher le bourreau, encore chaudes et saignantes. Enfin, tressaillements et convulsions s'arrêtèrent. M. Prohartchin allongea les jambes et s'en fut rendre compte de ses bonnes et de ses mauvaises actions. Que lui était-il arrivé? Avait-il eu peur? Avait-il eu un cauchemar, comme l'affirma plus tard Rybniov? Et avait-il eu autre chose? on n'en savait rien. Le fait est que, quand même le commissaire en personne se fut présenté dans l'appartement pour en chasser Semyon Ivanovitch, en raison de ses opinions voltairiennes et de son ivrognerie, ou qu'une mendiante fut entrée en se disant la belle-sœur, quand même on fut venu lui dire qu'il avait droit à 200 roubles de gratification, quand même son lit eut pris feu et que sa tête eut brûlé, il est probable qu'il n'eût pas bougé un doigt. Mais pendant que se dissipait le premier saisissement, que les assistants recouvraient peu à peu le don de la parole et commençaient à mettre sur pied leurs hypothèses, Koustinia Féodorovna fouillait fébrilement sous l'oreiller, sous le matelas et jusque dans les bottes du défunt, et qu'on faisait subir un interrogatoire sommaire à Remnioff et à Zimovaïkin, le locataire Okeanov, jusque-là le plus borné, le plus timide et le moins ardent, recouvrait soudain, avec toute sa présence d'esprit, l'universalité de ses talents et de ses dons naturels, saisissait son chapeau et s'esquivait. Et au moment où les horreurs de l'anarchie atteignaient leur comble dans cet appartement jusqu'alors si paisible, la porte s'ouvrit et, plus impressionnant que la foudre, on vit apparaître un monsieur de noble allure, au visage sévère et mécontent, suivi de Yaroslav Ilitch et de son chapitre, derrière lesquels se tenait confus M. Okeanov lui-même. Le monsieur à l'air noble et sévère marcha droit au lit sur lequel reposait Semyon Ivanovitch, le tâta, fit une grimace, haussa les épaules et déclara que c'était couru, que l'homme était mort, en rappelant toutefois que le même accident était arrivé ces jours derniers à un monsieur des plus honorables et d'une haute taille, à qui il avait pris comme ça l'idée de trépasser. Alors il s'éloigna du lit, dit qu'on l'avait dérangé pour rien, et sortit. Yaroslav Ilitch prit tout aussitôt sa place, Remnioff et Zimovaïkin se trouvant remis aux mains de qui de droit. Le commissaire posa quelques questions, s'empara fort adroitement du coffre que la logeuse se préparait à ouvrir, remit les bottes à leur place en faisant observer qu'elles étaient toutes trouées et hors d'usage, se fit remettre l'oreiller, appela Okeanov, demanda la clé du coffre qui se retrouva comme par hasard dans la poche de l'ivrogne Zimovaïkin et ouvrit le réceptacle des trésors de Semyon Ivanovitch. Rien n'y manquait. Il y avait bien là deux torchons, une paire de chaussettes, la moitié d'un mouchoir, un vieux chapeau, plusieurs boutons, de vieilles semelles et des tiges de bottes, en un mot, toutes sortes de loques empestant le moisi. Il n'y avait guère de bon que le cadenas allemand. Sévèrement interpellé, Okeanov se déclara tout prêt à prêter serment. L'oreiller fut examiné. Il n'offrait d'autre particularité que sa malpropreté singulière, mais sous les autres rapports, il était tout pareil à n'importe quel autre oreiller. On s'en prit alors au matelas. On commença de le soulever, et on s'arrêtait pour réfléchir un instant, quand un objet tomba lourdement sur le sol avec un bruit métallique. On le ramassa, on le tâta, et le reconnut que c'était là un rouleau d'une dizaine de roubles. Hé, fit Yaroslav Ilitch en désignant l'endroit où le matelas était percé et par où passaient le crin et le coton dont il était farci. On y regarda de plus près et on vit que la déchirure longue d'une demi-archine avait été faite tout récemment avec un couteau qu'on découvrit dans le matelas en introduisant la main et qui n'était autre que le couteau de cuisine de la logeuse. Yaroslav Ilitch n'avait pas encore fini de prononcer un nouveau « hé hé !» que tomba un second rouleau suivi de quelques pièces de monnaie de différentes valeurs. Le tout fut immédiatement saisi. Alors on estima bon d'ouvrir le matelas et on demanda des ciseaux. Un bout de bougie tout coulant éclairait là un tableau fort intéressant pour un observateur. Une dizaine de locataires étaient groupés autour du lit, dans les plus pittoresques costumes, tout ébouriffés, non rasés, non débarbouillés et tout bouffis de sommeil. Les uns étaient fort pâles, les autres ruisselaient de sueur, les uns tremblaient de fièvre, les autres étaient secoués de frissons. Absolument hébétée, la logeuse se tenait là, timide, les bras croisés dans l'attente du bon plaisir de Yaroslav Ilitch. Tandis que du haut du poêle, la servante Avdotia et la chatte favorite de la patronne contemplaient d'un air de curiosité effarée cette scène circonscrite par le paravent désemparé. Le coffre éventré révélait le mystère dégoûtant de ses entrailles. La couverture et l'oreiller traînaient à terre sous le rembourrage arraché du matelas. Enfin, on vit étinceler sur la table boiteuse un amoncellement de pièces d'argent et d'autres monnaies. Semyon Ivanovitch conservait son calme, tranquillement allongé sur son lit, sans paraître pressentir sa ruine. Au moment qu'on apporta les ciseaux et que, jaloux de faire du zèle, un sous-ordre de Yaroslav Ilitch tira quelque peu brusquement sur le matelas pour le dégager plus vite de dessous son propriétaire, Semyon Ivanovitch, très poliment, commença de faire place en roulant sur le flanc de manière à tourner le dos au spectateur. Au second coup, il se tourna sur le ventre, puis il roula encore, et comme il manquait une planche au chalut, on le vit subitement plonger la tête en bas, n'offrant plus au regard que deux pieds osseux, maigres et bleuis, tout pareils à des branches d'arbres calcinées. Comme c'était pour ce matin-là le deuxième plongeon de M. Prohartchine dans cette direction, un soupçon s'éleva, et sous la conduite de Zenobi Prokofitch, quelques locataires grimpèrent sur le lit, afin de voir s'il n'était point par là quelque chose de caché. Mais ces prospecteurs se cognèrent inutilement le front au mur, et sur l'injonction assez brève de Yaroslav Ilitch, les invitant à dégager immédiatement le lieu de ces constatations, deux des plus raisonnables saisirent chacun une jambe, tirèrent à eux ce capitaliste inopiné et le posèrent une fois sur le lit. Cependant, les poignées de crin et de coton continuaient à voler de tous côtés et l'argent formait des monceaux toujours croissants. On avait extrait du matelas de nobles roubles, pesants et épais, des roubles et demi, des pièces de 50 copecs et des pièces plébéiennes de 25 copecs, du menu fretin de vieille femme, c'est-à-dire des pièces de 10 et de 5 copecs en argent. Chaque espèce était soigneusement enveloppée de papier et rangée selon un ordre méthodique et bien établi. Il y avait même des pièces rares. Deux jetons, un napoléon, une monnaie inconnue et rarissime sans doute. Quelques-uns de ces roubles remontaient à des temps anciens, monnaie usée et hachurée de l'époque d'Élisabeth, de Pierre le Grand, de Catherine, thaler crucifère allemand. On y trouvait également des monnaies devenues à présent très rares, des pièces d'argent de 15 copecs trouées pour servir de boucles d'oreilles et complètement usées, des pièces de cuivre couvertes de verre de gris. On vit apparaître un billet de banque rouge. Il n'en existait plus. Enfin, lorsque prit fin cet examen d'anatomie et lorsque, ayant secoué la fourre du matelas, on fut certain que plus aucune monnaie n'y sonnait plus, on posa tout l'argent sur la table et on se mit en devoir de le compter. À première vue, on était porté à s'imaginer qu'il y en avait là pour un million. Cependant, bien qu'il y en eût loin d'un million, la somme était encore considérable en tout. 2 497 roubles 50 kopecks. Donc, si la souscription proposée la veille par Zinobi Prokofiev s'était réalisée, il eût pu y avoir 2 500 roubles. L'argent fut empaqueté, on apposa les scellés au coffre du mort, et sur l'audition des doléances de la logeuse, on lui expliqua où et quand elle devait présenter le certificat établissant la dette de son défunt locataire vis-à-vis d'elle. La signature de ceux qui la devaient fut exigée, et deux mots furent touchés relativement à la fameuse belle-sœur. Mais il devint tout de suite évident que cette belle-sœur n'était qu'un mythe, produit de l'insuffisante imagination si souvent reprochée au pauvre Prohatchine, et l'on en abandonna toute idée comme fort inutile et de nature à nuire au bon renom de M. Prohatchine. La première émotion passée, quand on sut ce qu'était le défunt, tous devinrent silencieux et se prirent à échanger des regards de défiance. Prenant à cœur la façon d'agir de Simeone Ivanovitch, certains s'en sentirent profondément froissés. Une pareille fortune! Mais comment cet homme avait-il pu amasser une aussi forte somme? Très maître de soi, Marc Ivanovitch entreprit d'expliquer pourquoi Simeone Ivanovitch était soudain tombé dans cette maladie de frayeur, mais on ne l'écoutait plus. Zinobi Prokofitch devint pensif. Okeanov but un tantinet, les autres se tassèrent sur eux-mêmes, et le petit Kantariov, que distinguait un nez en bec de moineau, déménagea le soir après avoir soigneusement collé et ficelé ses paquets en expliquant d'un ton froid au questionneur que les temps étaient durs et les loyers de cette maison fort élevés. Quant à la logeuse, elle pleurait sans discontinuer, maudissant ce Simeone Ivanovitch qui n'avait pas craint de faire tort à une pauvre orpheline. Quelqu'un ayant demandé à Marc Ivanovitch pourquoi, à son sens, le défunt ne mettait pas son argent en quelque banque, il répondit « Que voulez-vous, c'était un simple d'esprit, il manquait d'imagination. » « Et vous, petite mère, vous n'étiez pas moins simple, interjeta Okeanov. Pendant 20 ans, cet homme que je tabasse une seule chiquenaude est resté chez vous, et vous n'avez pas trouvé le temps de... petite mère !»«
Oh, que dis-tu ?» riposta la logeuse à celui qui avait interpellé Marc Ivanovitch, feignant de ne pas entendre les paroles tendancieuses d'Okeanov « À quoi bon la banque ?»
Il n'avait qu'à m'en apporter une bonne poignée à me dire « Tiens, jeune Isinyushka, voilà pour toi et nourris-moi jusqu'à la fin de mes jours. » Je te jure, sur les saintes icônes, que je l'aurais nourri, que je l'aurais soigné. Ah, le menteur! Oh, il m'a bien trompé, une pauvre orpheline.
On revint près du lit de Simeon Ivanovitch. Il était maintenant convenablement couché, vêtu de son meilleur et d'ailleurs unique habit, et son menton raidi s'embusquait derrière la cravate mal mise. On l'avait lavé, peigné, mais non pas rasé, parce qu'on n'avait pu trouver de rasoir dans l'appartement. Il y en avait bien un, propriété de Zinobi Prokofitch, mais complètement émoussé. Il avait été vendu avantageusement au marché de Tolkouchi, et depuis ce jour, les locataires allaient tous se faire barbifier chez le coiffeur. On n'avait pas trouvé le temps de réparer le désordre du coin de Simeon Ivanovitch. Le paravent brisé gisait à terre, dévoilant la solitude de celui qui l'avait recelé si longtemps et symbolisant cette vérité que la mort arrache tous les voiles, démasque tous les secrets, découvre toutes les intrigues. Le capitonnage du matelas jonchait tout le plancher, et un poète n'eût pas manqué de comparer ce coin maintenant refroidi et dévasté
au nid brisé d'une hirondelle ménagère. Tout est démoli par la tempête, la mère et les petits sont morts, et le petit lit chaud, si amoureusement fait de plumes et de duvet, est maintenant dispersé. D'ailleurs, Semyon et Ivanovitch avaient plutôt l'air d'un vieil égoïste ou de quelques moineaux voleurs. Il était là, bien tranquille, comme un qui a la conscience en paix, comme s'il n'avait pas été l'artisan de ses tours à tromper les braves gens de la plus ignoble façon. Il n'entendait plus les pleurs de sa logeuse abandonnée. Tout au contraire, tel un malin capitaliste, déterminé jusqu'à la tombe à ne pas perdre son temps dans l'inactivité, on lui dit entièrement absorbé par des calculs de spéculation. Son visage exprimait une méditation profonde et ses lèvres se serraient dans un air de gravité dont on ne l'eût jamais cru capable de son vivant. Il paraissait avoir beaucoup gagné en intelligence et tenait l'œil droit demi fermé, comme s'il eût voulu faire saisir à la hâte quelque chose de fort important et qu'il n'avait pas le temps de développer. Il semblait dire « Eh bien, as-tu bientôt fini de pleurer, espèce de sotte? Va donc dormir, entends-tu? Je suis mort et n'ai plus besoin de quoi que ce soit. Ah, qu'il fait bon être ainsi couché, puisque je te dis que je suis mort. C'est bien impossible, mais tout de même, si je n'étais pas mort et que je me levasse tout d'un coup, que crois-tu que ça ferait, hein ?